Voilà, on va retrouver Michel Favre pour sa 86e chronique astro. Mais juste avant, on va retrouver un petit générique. Voilà, je vous fais signe Tristan qui a la régie technique. Voilà, juste le temps du générique pour se mettre dans l'ambiance. Et promis, Michel est là pour vous présenter sa 86e chronique astro. Allez, ambiance.
La Terre, elle brille en fait, elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Et puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb qui découvrons des terres nouvelles qui jusqu'à présent n'étaient que des petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars. It would be the greatest adventure ever.
Et oui, on est en direct, c'est notre journal en ce mercredi 4 mai. Eh bien, on vous souhaite la bienvenue, hein, Michel, même si ça fait quelques années qu'on a le plaisir de vous retrouver. Donc bonjour et bienvenue, Michel.
Bonjour, Joël.
Alors, on redira quelques mots, bien sûr, à la fin de la chronique, sur le site où on peut retrouver toutes les infos, toutes les chroniques bien archivées. Et là, si vous voulez bien, Michel, directement dans l'actu, nous donner des nouvelles et des bonnes, je crois même, du JWST, voilà, c'est un acronyme en anglais, le James Webb Space Telescope.
Voilà. En effet, nous suivons toujours le feuilleton, si je peux dire, de la mise en service du JWST, comme vous l'avez dit, James Webb Space Telescope, qui est le nouveau télescope spatial de la NASA, qui se déroule sur plusieurs mois depuis son lancement le 25 décembre, son déploiement pendant son trajet jusqu'à sa destination à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, puis maintenant toute la phase de réglage de son optique et de la calibration de ses instruments. Les deux derniers mois, j'avais parlé des premières images publiées par la NASA lors du réglage des 18 segments hexagonaux de son miroir primaire en visant une petite étoile de la Grande Ourse pour régler leur alignement correct afin de constituer l'équivalent d'un seul miroir de 6,50 m. Ces images, publiées en février, montraient 18 images de l'étoile réparties sur le capteur, configuration utilisée pour affiner le réglage individuel de chaque segment. En mars, l'étape suivante consistait à faire converger les 18 faisceaux de lumière pour obtenir une seule image plus lumineuse et nette. Comme on le voyait sur la photo publiée le 16 mars, réalisée sur une autre étoile choisie dans la constellation du Dragon, image dont la finesse était rassurante sur les qualités optiques du JWST, notamment par les nombreuses petites galaxies visibles en arrière-plan de l'étoile. La phase suivante a consisté à régler les trois caméras du JWST, baptisées NIRCam, NIRIS et MIRI, ainsi que son spectrographe NIRSPEC, afin qu'ils soient parfaitement positionnés dans le plan focal du télescope, là où se forme une image bien nette. Ces opérations ont été réalisées en pointant le petit nuage de Magellan, une petite galaxie satellite de la Voie lactée. Cette ultime étape d'alignement des instruments s'est officiellement terminée le 28 avril dernier, avec succès, puisque les images réalisées sont pleinement satisfaisantes et démontrent que les qualités optiques du télescope sont meilleures que les prévisions les plus optimistes. On peut trouver ces photos sur le site de la NASA, pour ceux que ça intéresse. Par ailleurs, les mesures indiquent que la température des instruments, protégée du rayonnement solaire par un bouclier thermique, est descendue au niveau prévu. Nous sommes donc entrés dans la dernière phase de réglage avant l'utilisation scientifique du JWST, la mise en service des instruments qui doivent être testés dans différentes configurations pour confirmer leurs bons résultats avant d'être exploités. Comme le planning se déroule sans retard, les premières observations sont toujours prévues pour le mois de juin.
Voilà, on est toujours sur la chronique. Pardon, Michel, hein, vu qu'on a un petit peu modifié deux ou trois secondes de blanc. Désolé, vous allez nous parler des 50 ans d'Apollo 16.
Voilà. Lors des deux dernières chroniques, j'avais abordé les conséquences de la guerre d'Ukraine dans le domaine spatial, avec le gel de la plupart des coopérations avec la Russie. La seule exception restant l'ISS, la Station Spatiale Internationale, où les missions continuent à se dérouler à peu près normalement, et notamment le retour fin mars d'un astronaute américain à bord d'un Soyouz russe, comme prévu, et la semaine dernière, l'arrivée d'un nouvel équipage de 3 astronautes américains et de l'italienne Samantha Cristoforetti de l'ESA à bord d'une capsule Crew Dragon de SpaceX lancée le 27 avril depuis le Centre Spatial Kennedy en Floride. Je dis « presque normalement » car il y a eu comme un dérapage inhabituel samedi 30 avril, car lors d'une sortie hors de la station, 2 cosmonautes russes ont déployé un drapeau soviétique frappé de la faucille et du marteau, qui était en fait une réplique de la bannière de la victoire plantée par l'armée rouge au sommet du Reichstag lors de la prise de Berlin en 1945. Même si ce geste était censé être un hommage à la célébration de la capitulation de l'Allemagne nazie, que les Russes fêtent le 9 mai, on peut quand même y voir une démonstration nationaliste plutôt malvenue en pleine guerre d'Ukraine. On pourrait se croire revenu presque à l'époque de la guerre froide, où les blocs américains et soviétiques se mesuraient dans tous les domaines, en particulier le spatial avec la course à la Lune des années 1960, remportée par les États-Unis, avec la réussite de la mission Apollo 11 en 1969. Si nous avons fêté le 21 juillet 2019 le cinquantenaire des premiers pas de l'homme sur la Lune, il ne faudrait pas oublier les 6 autres missions lunaires Apollo qui se sont poursuivies les années suivantes. En ce mois d'avril qui vient de s'achever, c'était Apollo 16 qui déposait 2 astronautes sur le sol lunaire il y a tout juste 50 ans, John Young, le commandant, et Charles Duke, copilote du module lunaire, pendant que Ken Mattingly les attendait à bord de la capsule en orbite autour de la Lune. Excepté John Young, décédé en 2018, les 2 autres membres d'équipage sont encore en vie aujourd'hui et Charles Duke est même venu en France en novembre dernier pour évoquer cette mission lors du festival Explore Espace organisé par Ciel et Espace, la revue de l'AFA, l'Association Française d'Astronomie. Et on peut trouver sur le site de la revue la vidéo de son intervention. Pour revenir à la mission, la fusée Saturne V avait décollé du Centre Spatial Kennedy le 16 avril 1972 et 5 jours plus tard, le 21 avril, leur module lunaire se posait sur notre satellite. Contrairement au premier séjour lunaire plutôt court, seulement 21 heures pour Apollo 11, il était prévu cette fois de rester 3 jours sur place afin de réaliser des sorties plus longues, au total plus de 20 heures, à comparer aux seulement 2h30 de l'unique sortie des astronautes d'Apollo 11.
Alors cette mission Apollo 16, la cinquième à déposer des hommes à la surface de la Lune, avait-elle d'autres particularités par rapport aux précédentes justement ?
En effet, c'était le choix du site d'alunissage qui devait être très différent du point de vue géologique des paysages visités auparavant. Quand on regarde la Lune dans le ciel, notamment autour de la pleine Lune, on ne peut pas manquer de remarquer qu'elle présente des zones claires et d'autres plus sombres, qu'on appelle mers, par analogie avec les océans terrestres, qui sont plus sombres que les continents. Une dénomination assez inappropriée puisqu'il n'y a pas d'eau à la surface de la Lune. Dans un petit télescope, on peut facilement constater qu'il s'agit de grandes plaines grises, piquetées de rares cratères, alors que les zones plus claires présentent beaucoup plus de reliefs abrupts. Cela explique de manière évidente le choix qui avait été fait pour les 4 premières missions Apollo, hein, de 11 à 15, sauf 13 qui a été victime d'un grave accident. Par sécurité, il était plus prudent de se poser sur les mers plutôt que dans des zones accidentées. C'est ainsi que Apollo 11 s'était posé au sud de la mer de la Tranquillité, Apollo 12 à l'est de l'océan des Tempêtes, Apollo 14 un peu plus à l'est dans la région du grand cratère Framoro, et Apollo 15 au bord du marais de la putréfaction, il y a des noms pas très sympathiques sur la Lune, près de la chaîne montagneuse des Apennins et plus précisément des monts Adelaide. Tous ces sites correspondaient géologiquement à des terrains plutôt récents, puisque la rareté des cratères sur les mers traduit une durée d'exposition limitée aux bombardements plus ou moins réguliers par des astéroïdes. En effet, c'est par la densité de cratères qu'on date approximativement l'âge des surfaces lunaires et que les géologues définissent les grandes aires de l'évolution de notre satellite. Plus une zone est riche en cratères, plus elle est ancienne. Pour Apollo 16, les spécialistes de la Lune avaient donc choisi de visiter un terrain plus ancien, donc sur une des zones claires riches en relief, plus précisément les hauts plateaux Descartes, du nom du gros cratère de 48 km de diamètre qui définit cette région, cratère situé à environ 80 km au sud du site choisi pour l'alunissage. Sur des photos, et je rappelle en passant que c'est de France, à l'observatoire du Pic du Midi dans les Pyrénées, qu'ont été faites les meilleures photos de la surface lunaire utilisées pour préparer les missions Apollo. Sur ces photos, donc, les géologues avaient remarqué des collines douces qui, selon eux, devaient correspondre à un écoulement de lave, donc un témoignage d'une activité volcanique qui serait l'objectif de la mission Apollo 16. Pour confirmer cette hypothèse, Apollo 14 devait réaliser des images à haute résolution de cette région, mais malheureusement, des problèmes techniques avaient empêché d'obtenir des clichés aussi détaillés que prévu. Les astronautes d'Apollo 16 constateront très vite que le paysage ne correspondait pas à ce qui était attendu, car dès leur première sortie à la surface lunaire pour déployer un instrument scientifique baptisé ALSEP, Charles Duke remarque la structure d'un rocher d'environ 2 mètres et s'exclame « c'est une brèche de deux roches ». En langage géologique, une brèche est un amalgame de roches fondues lors d'un impact météoritique, donc pas du tout une roche d'origine volcanique. Et les deux astronautes constatent rapidement que parmi les roches qui les entourent, aucune ne semble volcanique. À la demande des géologues qui suivent leurs évolutions en direct, ils ramassent une grosse roche plus claire, la plus grosse jamais récoltée sur la Lune, de la taille d'un ballon de football et d'une masse d'environ 11 kilos, mais c'est encore une brèche d'impact.
Alors Michel, peut-on parler d'échec pour cette mission ?
À première vue, oui, mais leurs explorations ne sont pas terminées. Et à l'aide du rover, parfois surnommé la Jeep lunaire, qui a été expérimenté par la précédente mission, Apollo 15, ils grimpent 175 mètres sur la pente de la colline voisine, surnommée Stone Mountain, à environ 4 km du LEM, d'où ils ont une vue panoramique sur tout le plateau Descartes, en espérant y déceler les roches volcaniques qu'ils cherchent. Ils constatent que toute la région est polluée, si l'on peut dire, par des roches éjectées d'un jeune cratère d'impact visible en contrebas, surnommé South Ray. En soulevant des roches pour analyser le sable qu'elles ont protégé du rayonnement solaire, ils obtiennent une datation d'environ 2 à 3 millions d'années seulement pour South Ray. Au bout de deux sorties, il est clair que les géologues se sont trompés et que l'aspect des collines douces du paysage ne doit rien au volcanisme lunaire, donc ni coulées de lave ni dépôts de cendres, mais des matériaux expulsés par le creusement du gigantesque bassin de la mer des pluies. Leur dernière sortie, à environ 4,5 km au nord, les conduit au bord d'un autre jeune cratère d'impact surnommé North Ray, daté d'environ 50 millions d'années, qui leur permet d'observer les strates du sous-sol jusqu'à 230 mètres de profondeur. Mais il n'y a toujours pas de traces de lave. Heureusement, sur les presque 96 kg d'échantillons qu'ils rapporteront sur Terre, certains présentent 80% d'une roche cristalline appelée anorthosite, qui date de plus de 3,8 milliards d'années, donc des morceaux de la croûte primitive datant d'environ 4 milliards d'années, bien avant les grands impacts ayant creusé les bassins des mers lunaires. Donc finalement, l'objectif d'explorer l'histoire géologique ancienne de la Lune a été réussi, mais les astronautes ne le savent pas encore quand ils redécollent le 24 avril 1972. Un dernier petit mot à propos de ce décollage de la surface lunaire. Depuis que les missions lunaires ont été équipées d'un rover, Apollo 15, 16 et 17, la NASA a eu l'idée de filmer en direct ce départ de la Lune en utilisant la caméra équipant la Jeep, positionnée exprès à bonne distance du LEM. Mais cette courte séquence nécessitait un petit exploit technique, car le mouvement de la caméra devait être piloté depuis la Terre. Or, en raison de la distance Terre-Lune d'environ 380 000 km, il faut à la lumière un peu plus de 1 seconde pour franchir cet espace. Et c'est le cas pour toutes les ondes électromagnétiques, donc celles utilisées pour communiquer avec les astronautes, d'où le décalage entre questions et réponses qu'on peut remarquer dans les échanges avec la Terre. Mais c'est pareil pour la télécommande de la caméra. Et c'est donc en fonction d'un planning préétabli des mouvements à réaliser qu'un technicien a effectué le suivi du LEM au décollage, mais à l'aveugle, puisqu'avec une anticipation de 2 secondes par rapport aux images renvoyées sur Terre. Ce sera aussi le cas pour Apollo 17 et l'ultime départ de la Lune le 14 décembre 1972, une mission que nous évoquerons sans doute dans la chronique de décembre prochain pour son 50e anniversaire.
Allez, on est toujours en direct sur Eau de Radio. C'est notre journal de ce mercredi 4 mai avec Michel Favré, sa chronique astro numéro 86. Et là, Michel, vous allez nous parler du sujet, du thème du mois et mettre en valeur, en avant les éclipses.
Oui, alors nos éditeurs fidèles remarqueront certainement que c'est un sujet que j'aborde périodiquement ici en raison de la répétition de ces phénomènes. Et cette fois, c'est à l'occasion de la prochaine éclipse totale de Lune qui aura lieu le lundi 16 mai, donc dans un peu moins de 15 jours, mais dont l'observation sera réservée au lève-tôt, car ce sera entre 4h30 et 6h30 du matin, en espérant que la météo sera favorable. Je détaillerai les conditions de son observation dans quelques minutes. Le phénomène des éclipses a de tout temps fortement impressionné les hommes qui y assistaient, notamment les éclipses de soleil avec ce qu'on appelle le soleil noir, l'âme solaire entièrement masquée par la Lune, laissant alors apparaître les extensions de la couronne solaire dans une ambiance sombre, crépusculaire et refroidie. Mais les éclipses de Lune ne sont pas en reste. Avec notre satellite entrant progressivement dans l'ombre de la Terre en s'assombrissant fortement et prenant une teinte rouge, symboliquement très inquiétante. On a des traces historiques très lointaines, notamment par des astrologues chinois il y a plus de 4000 ans, si on veut être précis, en 2136 avant Jésus-Christ, Plus près de nous, en Grèce, celle de 585 avant Jésus-Christ aurait été prédite par Thalès de Milet. Et l'on trouve dans la Bible ou d'autres textes religieux des descriptions de phénomènes qui ressemblent à des éclipses et que les historiens essaient d'identifier précisément pour améliorer la datation de certains événements.
Alors Michel, si vous voulez bien, peut-être nous donner des précisions justement sur les éclipses et comment ça marche plus précisément exactement.
Alors je pense que presque tout le monde sait que pour qu'une éclipse se produise, il faut l'alignement plus ou moins parfait de trois astres. Soleil, Lune, Terre pour une éclipse de Soleil, qui se produit donc toujours à la nouvelle Lune, et Soleil, Terre, Lune pour une éclipse de Lune, qui se produit donc toujours à la pleine Lune. Comme le cycle lunaire, appelé lunaison, dure environ un mois, 29 jours et demi précisément, et que ça correspond à la révolution de la Lune autour de la Terre par rapport au Soleil, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une éclipse de Soleil et une de Lune à chaque lunaison, soit environ une fois par mois. Il n'en est rien car l'orbite de la Lune autour de la Terre ne s'inscrit pas dans le plan de l'orbite terrestre autour du Soleil, appelé écliptique, en référence aux éclipses qui se produisent toujours dans ce plan. L'orbite de la Lune est inclinée d'un peu plus de 5 degrés par rapport à ce plan, ce qui fait que la plupart du temps, la nouvelle Lune passe un peu au-dessus ou un peu en dessous du Soleil dans le ciel. Et de la même manière, la pleine Lune rate un peu l'ombre de la Terre. Pour que l'alignement puisse être réalisé, il faut que la pleine ou nouvelle Lune se produise quand notre satellite est proche des deux points d'intersection de son orbite avec l'écliptique, qu'on appelle des nœuds. Et si nos auditeurs essayent d'imaginer cet alignement, hein, pour les aider, on trouve de bons schémas sur Internet, notamment sur Wikipédia, il est clair qu'il se produira de nouveau à l'autre nœud qui se retrouvera entre Terre et Soleil environ 6 mois plus tard, quand la Terre aura parcouru une demi-révolution annuelle. L'écart entre nouvelle Lune et pleine Lune étant d'environ 15 jours, délai insuffisant pour que la position du nœud ait beaucoup bougé, les éclipses vont généralement par paire, une de Lune et une de Soleil à 15 jours d'intervalle, et ceci deux fois dans l'année à environ 6 mois d'intervalle. Comme cette année par exemple, en avril-mai puis octobre-novembre. Il y a eu une éclipse partielle de Soleil samedi dernier, le 30 avril, mais qui était observable uniquement en Amérique du Sud et dans le sud du Pacifique, puis notre éclipse totale de Lune du 16 mai, puis on pourra à notre tour observer en Europe une éclipse partielle de Soleil le 25 octobre, précédant de 15 jours une éclipse totale de Lune le 8 novembre, mais qui ne sera visible que d'Asie ou des Amériques. On a donc généralement dans les 4 éclipses par an, 2 de Lune et 2 de Soleil, mais attention, elles ne sont pas forcément toutes totales, et certaines peuvent être partielles ou même annulaires quand la Lune trop éloignée de la Terre ne masque pas entièrement le limbe solaire. Parfois, la configuration des positions près du nœud permet d'avoir une éclipse d'une sorte 15 jours avant et 15 jours après l'éclipse de l'autre sorte, donc une série de 3 éclipses au lieu de 2. En étudiant ces cycles, les astronomes concluent qu'il peut y avoir jusqu'à 7 éclipses la même année, mais c'est plutôt rare. D'après ce que j'ai pu lire, cela s'est produit en 1982 et cela ne doit se reproduire que deux fois au XXIe siècle, en 2038 et 2094.
Alors vous parlez de cycles étudiés par les astronomes, mais y a-t-il une reproduction régulière de ces séries d'éclipses ?
Effectivement, et ces séries sont nommées Saros. Le premier témoignage historique de ces cycles remonte aux Chaldéens, mais il semble qu'il s'agisse plus d'une sorte de calendrier lunaire. Selon la définition actuelle, la connaissance du Saros remonte à l'Antiquité grecque et certains croient d'ailleurs reconnaître ce cycle dans le fameux mécanisme d'Anticythère, un objet en bronze très endommagé mais comprenant des engrenages découvert dans une épave en 1901 entre des îles ioniennes et qui semblerait remonter au 1er siècle avant notre ère. Pour comprendre le Saros, il faut faire un petit calcul. La lunaison de 29 jours et demi est le mois synodique, c'est-à-dire la révolution de la Lune autour de la Terre par rapport au Soleil. Cela résulte en fait de la combinaison de la révolution de la Lune avec celle de la Terre autour du Soleil. Si on prend non plus le Soleil comme repère, mais les étoiles très lointaines pour avoir la vraie période de révolution de la Lune autour de la Terre, on trouve 27,2 jours, qu'on appelle le mois draconitique. C'est à ce rythme-là que la Lune repasse à l'un des nœuds d'intersection de son orbite avec l'écliptique. Mais comme l'orbite de la Lune est une ellipse, sa distance à la Terre varie, ce qui produit des conditions différentes, par exemple une éclipse totale de Soleil ou une éclipse annulaire. Ce cycle de l'écart Terre-Lune est d'environ 27 jours et demi. Et je vous épargne son nom scientifique qui est assez compliqué. Donc pour retrouver exactement les mêmes conditions d'éclipse, il faut trouver des multiples de ces 3 cycles produisant la même durée. Et la réponse est le Saros de 6585 jours,3. Soit environ 18 ans, 11 jours ou 10 selon le nombre d'années bissextiles dans l'intervalle, 7 heures et 43 minutes. Donc exactement la même éclipse se répète après 18 ans et 11 jours. Le décalage horaire résiduel d'environ 8 heures, soit un tiers de la rotation terrestre, fait qu'elle ne se produit pas au même endroit, mais à environ 120 degrés de décalage en longitude. Cela explique que dans l'Antiquité, malgré la connaissance de ces cycles, il était possible de prédire la survenue d'une éclipse, mais sans pouvoir dire exactement où elle allait se produire. Ce qui n'est pas très grave pour une éclipse lunaire visible de la moitié de la Terre, mais plus embêtant pour une éclipse de soleil parfaitement visible uniquement sur la petite bande balayée par l'ombre de la Lune à la surface de la Terre. Il existe simultanément 40 séries de Saros intriquées les unes dans les autres, et on les numérote pour s'y retrouver. Par exemple, en 2022, l'éclipse solaire partielle du 30 avril faisait partie du Saros 119, alors que celle du 25 octobre est du 124. L'éclipse totale de lune du 16 mai fait partir du 131, alors que celle du 8 novembre est dans le 136. Un Saros se reproduit à l'identique plusieurs fois de suite, mais pas éternellement, car des plus petits écarts dans la mécanisme céleste Soleil-Terre-Lune finit par les faire disparaître au profit d'un nouveau Saros différent. Mais ces périodes de reproduction sont très longues, environ 1200 à 1500 ans. Par exemple, la dernière éclipse totale de soleil visible en France, le 11 août 1999, faisait partie du Saros 145, qui a débuté le 4 janvier 1639 et continuera à se répéter jusqu'au 17 avril 3009. Mais pas sûr qu'on sera là pour le vérifier.
Je confirme, en effet. mais que vois-toi, alors, Michel, dans le ciel lors d'une éclipse totale de lune, à l'instar de celle du 16 mai prochain ?
Alors, par analogie avec une éclipse solaire, on pourrait s'attendre à ce que l'ombre de la Terre, bien noire, mange petit à petit le limbe lunaire jusqu'à faire disparaître totalement la pleine lune, comme la lune qui masque progressivement le soleil jusqu'à le cacher complètement. Mais en réalité, c'est très différent en raison de la structure de l'ombre de la Terre dans l'espace. Elle est composée d'un cône d'ombre, zone de l'espace où la Terre masque totalement le Soleil. Entourée d'une pénombre, zone de l'espace où le Soleil n'est masqué que partiellement par notre planète. Donc au début d'une éclipse lunaire, la pleine Lune très brillante commence par pénétrer dans la pénombre, zone où elle reçoit un peu moins de Soleil. Cela se traduit juste par un éclat un peu moins fort, un changement pratiquement indécelable à l'œil nu, car notre vision s'adapte à l'éclat des objets qu'on observe. Mais cette différence, on peut la mettre en évidence sur des photos. Le 16 mai, cette phase commencera à 3h30 du matin. Mais pour la plupart des observateurs, le phénomène commencera vraiment vers 4h30. Si on veut être précis, c'est 4h, 27 minutes et 54 secondes, quand le limbe lunaire touchera l'ombre de la Terre. Et là encore, ça ne ressemblera pas du tout à l'arc bien net et bien noir de la Lune s'interposant devant le Soleil, car notre planète possède une autre particularité, son atmosphère. Comme les rayons solaires sont déviés par notre atmosphère, le bord de l'ombre de la Terre n'est pas net, mais flou, avec un assombrissement progressif. Donc une zone de forme vaguement arrondie sur la Lune qui assombrit progressivement la partie du limbe qui y pénètre. Et au bout d'un moment, quand notre œil s'adaptera à cet assombrissement, on distinguera que la partie la plus sombre n'est pas noire, mais rougeâtre, d'une couleur qui peut varier de l'orange à un rouge sombre. C'est encore l'effet de l'atmosphère terrestre, car la déviation des rayons solaires dépend de leur longueur d'onde, et comme on peut le constater lors d'un lever ou d'un coucher de soleil, ce sont les rouges qui sont les plus déviés. L'ombre de la Terre est donc colorée en rouge, avec des nuances qui peuvent varier, notamment en fonction des nuages et de la poussière présente dans notre atmosphère. Lors d'une éclipse de lune, on voit donc le limbe passer du blanc éclatant de la pleine lune à un assombrissement grisâtre qui révèle progressivement sa partie sombre rougeâtre jusqu'à devenir totalement rouge lorsque l'éclipse est totale, ce qui se produira le 16 mai à partir de 5h30. 5h, 29 minutes, 5 secondes pour être précis. Et devrait se poursuivre jusqu'à presque 7h. Malheureusement, comme l'auront compris les leftos, cet horaire est trop tardif car en ce moment, l'aube commence vers 5h30 et le soleil se lève environ une heure plus tard, ce qui logiquement correspond au coucher de la Lune quand elle est pleine, donc à l'opposé dans le ciel. L'éclipse du 16 mai se déroulera donc dans des conditions d'observation difficiles, bien loin de la dernière que nous avons pu voir le 21 janvier 2021, avec la totalité commençant alors que la Lune était encore assez haute dans le ciel et se terminant bien avant l'aube. Malheureusement, la météo n'avait pas été bonne, avec un ciel plutôt couvert ne permettant de voir la Lune que par intermittence, grâce à quelques trouées entre les nuages. Pour le 16 mai, Espérons que la météo nous sera plus favorable. Et pour les courageux qui souhaiteront observer le phénomène, je leur conseille de choisir un site possédant un horizon ouest très dégagé. Par exemple sur la côte ou un site surélevé, car au début de la totalité, vers 5h30, la Lune ne sera qu'à 8 degrés au-dessus de l'horizon, soit environ la largeur de la main sans le pouce bras tendu. Donc autant dire que tout obstacle, genre immeuble, maison ou même arbre, gênera son observation. Et celle-ci sera assez brève, car le ciel commencera presque tout de suite à s'éclaircir, heureusement en commençant à l'opposé côté est, mais je doute qu'on puisse poursuivre l'observation de la Lune jusqu'à son coucher, vers 6h30, à peu près vers le ouest-sud-ouest, alors que le ciel sera déjà très clair, puisque le soleil se lèvera au même moment. Donc une observation très matinale et dans des conditions pas très favorables, mais que je conseille quand même de tenter, car la prochaine éclipse totale de Lune visible d'ici ne se produira que dans 3 ans, le 14 mars 2025. Et elle sera dans des conditions analogues, interrompues par le coucher de Lune et le lever du soleil.
Allez, toujours en direct sur Odo Radio, la chronique astro de Michel Favré. Et là, Michel, vous allez aborder la troisième partie de votre chronique et nous parler du ciel du mois.
Alors, comme chaque mois, je renvoie les auditeurs vers la rubrique Ciel du mois de la section astronomie de notre site web, www.constellationsetgalaxies.org, pour voir les cartes, difficile de montrer des cartes à la radio, et avoir plus de détails. C'est d'ailleurs sur le même site et aussi dans la rubrique astronomie qu'on trouve les chroniques Odo Radio. Avec le passage à l'heure d'été fin mars et l'allongement des jours qui se poursuit jusqu'au solstice du 21 juin, en mai on ne peut observer le ciel nocturne qu'assez tard, puisqu'en ce moment, le soleil se couche un peu après 21h et la nuit arrive vers 22h20 et même 23h si on attend un ciel bien noir. Ce sera encore plus tard en fin de mois avec le coucher vers 21h40 et la nuit vers 23h. En ce milieu de printemps, les constellations du ciel d'hiver disparaissent dès le début de nuit, avec Orion et le Taureau en train de se coucher vers l'ouest, et ce sont les constellations typiques du printemps qui occupent presque tout le ciel, avec plein sud la figure bien reconnaissable du Lion, facile à situer car juste sous les pattes de la Grande Ourse. C'est avec cette constellation bien connue et surtout sa fameuse casserole qu'on trouve facilement les deux autres grandes constellations de la saison, car en prolongeant l'arc de sa queue, on tombe sur Arcturus, l'étoile brillante et légèrement jaunâtre de la constellation du Bouvier, et en poursuivant plus loin Spica, l'étoile la plus brillante de la Vierge, figurant son épi. Car cette Vierge n'a rien à voir avec la Sainte Vierge des chrétiens, mais représente une déesse des moissons, souvent identifiée comme Cérès des Grecs. Dans le ciel, ces étoiles forment un contour ressemblant un peu à un Y. Et plus à l'est, c'est le ciel d'été qui commence à apparaître, avec deux des étoiles brillantes qui forment le triangle de l'été, Vega et Deneb, qui sont déjà levées et seront rejointes par la troisième, Altaïr, un peu après minuit. En fin de mois, la situation aura notablement évolué, avec en début de nuit le Lion déjà basculé vers l'ouest pour aller se coucher, Arcturus et Spica pratiquement plein sud, et le triangle d'été déjà complètement levé. Côté planète, on ne peut les voir que le matin, où se poursuit leur balai que je vous avais déjà signalé en avril. Le 19 avril, elles se présentaient dans un alignement très régulier, avec par ordre d'apparition Saturne, Mars, Vénus et Jupiter. Depuis cette date, ce bel alignement se modifie, car dans le ciel, les planètes se déplacent d'autant plus vite qu'elles sont proches du Soleil. Donc Vénus, la plus rapide, et Mars se sont décalés progressivement vers l'est en s'éloignant de Saturne et en se rapprochant de Jupiter. Au point que dimanche dernier, 1er mai, les brillantes Vénus et Jupiter étaient très proches, avec un écart de moins de 1,5 degré. Depuis lors, Jupiter précède Vénus dans le ciel, et c'est le tour de Mars de s'en rapprocher progressivement, jusqu'à la conjonction du vendredi 29 mai, où elles seront écartées aussi d'environ 1,5 degré. Pour fixer cet écart, à nos auditeurs, la largeur d'un doigt bras tendu correspond à environ 2 degrés, soit 4 fois plus. Ces jours-ci, ces planètes se lèvent à 4 heures pour Saturne, légèrement jaunâtre, 5 heures moins le quart pour Mars, bien reconnaissable à sa couleur orangée, 5 heures et quart pour la brillante Jupiter, suivie de Vénus. En fin de mois, ce sera plutôt avec Saturne apparaissant vers 2 heures, Jupiter et Mars presque ensemble vers 3h30, et enfin, la plus éclatante de toutes, Vénus, un peu avant 5 heures. En fin de mois, la Lune s'invitera le long de cette ligne formée par les planètes. Le dimanche 22, le premier quartier sera sous Saturne, à peu près la largeur de 2 doigts bras tendus. Le mercredi 25, le croissant sera encore plus proche de Jupiter et Mars, et c'est seulement le vendredi 27 qu'un fin croissant frôlera presque Vénus dans les lueurs de l'aube, au point que dans certaines régions sur Terre, du côté de l'océan Indien, on pourra voir la Lune masquer la planète. D'ici là, je vous encourage, hein, de nouveau, si la météo est bonne, à vous lever tôt le lundi 16 mai afin d'observer l'éclipse totale de Lune. Et d'ailleurs, comme à chaque fois que se produit un phénomène astronomique un peu rare, certains clubs d'astronomie se mobilisent pour les observer et partager leurs observations avec le public. Bien entendu, c'est plus impressionnant de voir l'éclipse de Lune dans un télescope ou une lunette qu'à l'œil nu ou dans une simple paire de jumelles. Et on pourra aussi en profiter pour jeter un œil aux belles planètes visibles le matin. Pour la région bordelaise, nos amis d'AG33, Astronomie Gironde 33, seront sur leur site d'observation habituel, le mémorial de la ferme de Richemont à Socat, dès 3h30, bien entendu seulement si la météo est favorable. On trouvera plus d'informations sur leur forum en ligne. Alors si je me trompe pas, c'est ASA, A2SA, je suppose que ça veut dire Astronomie Socat, hein, ASA, asa.forumactif.org. À noter que pour la dernière fois où l'éclipse de Lune avait pu être observée dans de bonnes conditions sur site en 2018, ils avaient réuni dans les 200 participants, mais c'était en soirée. Les autres clubs girondins que j'ai interrogés sur ce sujet ne semblent pas avoir prévu de rendez-vous à cette occasion, sans doute en raison de l'horaire très matinal. L'association Vega de la Lyre, située à Vers, m'a précisé que si elle n'organise rien pour l'éclipse, elle accueillera le public pour une opération porte ouverte le 25 juin, baptisée les 24 heures d'observation de l'Observatoire de Vers, car le challenge, si la météo le permet, sera de réaliser des observations non-stop pendant 24 heures, du samedi midi au dimanche midi. Nous pourrons sans doute en reparler lors de notre prochaine chronique, qui pourrait être avancée à la fin du mois de mai, car début juin, je serai en déplacement hors de la région.
Voilà, merci Michel pour cette belle chronique. Et pour la prochaine, voilà, on va se recaler, hein, par rapport à l'agenda pour essayer de respecter toujours voilà une chronique mensuelle. Alors juste quelques mots avant qu'on enchaîne. Hein, vous l'avez cité, notamment le site internet où on peut retrouver toutes les infos, toutes les chroniques.
Voilà, constellationzgalaxy.org. Hein, ça correspond pour nos éditeurs qui nous suivent depuis pas très longtemps à l'association qui existait et pour laquelle je travaillais, mais qui maintenant a arrêté ses activités.
Parce mais que le site est toujours
actif. Je suis
actif.
En retraite, mais le site existe toujours, et en particulier pour pouvoir mettre à jour tous les mois le fameux ciel du mois qu'on trouve dans l'onglet Astronomie. Et c'est dans cet onglet aussi qu'on trouve une rubrique Les chroniques radio O2, enfin O2 Radio. On retrouve l'enregistrement de toutes les chroniques depuis la première en septembre 2014. Et comme je le dis, c'est une liste, hein, les plus récentes d'abord, les plus anciennes en bas de liste, avec un petit descriptif du contenu, ce qui permet aux auditeurs qui souhaiteraient réentendre des sujets particuliers de pouvoir les choisir facilement et pas réécouter toutes les chroniques. J'ai pas fait le calcul, mais ça ferait quand même quelques heures d'audition. Hein.
Allez, merci Michel. On rappelle, le site est constellationzgalaxy.org, c'est au pluriel, et on va en mettre toutes les bonnes infos via notre site internet.